Americans dream big. As hard as it may seem this Thanksgiving, we're going to dream big again.
On va rêver grand ensemble. C'est ce qu'a dit pour son message de l'Action de grâce, jeudi, la Thanksgiving, dans le congé qui se poursuit d'ailleurs, le président élu, celui qui risque d'être assermenté à midi le 20 janvier prochain comme 46e président des États-Unis. Valérie Beaudoin, bonjour.
Bonjour Paul.
Je dis qu'il risque d'être assermenté, tout le monde le croit, sauf le président actuel, POTUS. President of the United States 45, qui lui prétend qu'on lui a volé encore l'élection.
Oui, vraiment, là, parce qu'il y a encore des revers de la cour et il prétend que l'élection lui a toujours été volée. Dans un premier temps, Paul, je vais te parler de ce qu'il a dit cette semaine, lui, lors de son annonce de Thanksgiving. Alors, il a dit en direct de la Maison-Blanche lorsqu'il a salué le travail des militaires américains. Il y a toujours ce message, hein, c'est traditionnel pour le président de saluer les troupes, de les remercier pour leur service. Et bien sûr, les reporters qui étaient sur place en ont profité pour lui poser quelques petites questions, dont celle-ci. Et je vais te faire entendre dans un instant par la suite sa réponse. Une d'entre elles qui lui dit « Si le collège électoral confirme la victoire de Joe Biden, allez-vous quitter la Maison-Blanche le 20 janvier? » On l'écoute.
Just say, certainly I will. Certainly I will. And you know that. But I think that there will be a lot of things happening between now and the 20th of January. A lot of things. Massive fraud has been found. We're like a third world country. We're using computer equipment that can be hacked.
Alors, il dit qu'il quitterait la Maison-Blanche, mais il dit qu'il va se passer beaucoup de choses avant l'assermentation du président, quel qu'il soit, le 20 janvier.
Oui, exactement, parce que les grands électeurs vont se réunir le 14 décembre et c'est là qu'on va vraiment voter directement pour élire Joe Biden comme prochain président des États-Unis. Alors lui, ce qu'il dit finalement, c'est que d'ici là, il devrait y avoir encore des contestations et qu'ils vont sortir victorieux et que finalement, la victoire sera à Donald Trump qui aurait un deuxième mandat. Mais Paul, si tu suis comme moi les contestations judiciaires, tu sais bien que la plupart, et je dirais même presque 100% d'entre elles, mis à part quelques exceptions, on a rejeté les arguments des proches du président Trump. La dernière, l'autre revers qu'on a eu en Pennsylvanie, trois juges qui ont été mis en place par des présidents américains, dont un juge qui a été nommé par Trump lui-même. Alors, on peut pas dire ici que c'est des juges démocrates qui sont biaisés. Ils ont dit que affirmer qu'une élection est injuste ne la rend pas injuste pour autant. On a dit qu'on avait des accusations, mais c'est pas précis et il n'y a pas de preuves qui accompagnent ces accusations. Et c'est sûrement souvent ça qui revient, hein. Ça semble vraiment aléatoire ce qu'on présente devant les tribunaux au lieu d'avoir une stratégie, avoir des preuves et cibler vraiment les endroits où on peut gagner des votes. Donc, Trump et son équipe qui n'ont pas d'accusations pour l'instant, qui sont fondées. Alors, il dit que le c'est pas terminé. D'ailleurs, il a tweeté à minuit hier soir en disant « Vous allez voir, je l'ai gagné la Pennsylvanie. Il y a des votes qui sont apparus de nulle part. » Ça, c'est la première des choses. Et un autre revers au Wisconsin. Imaginez, la campagne du président a payé 3 millions de dollars eux-mêmes, là, de leur poche, ben en fait de la poche des gens qui ont donné aussi de l'argent pour les aider, pour le recomptage dans deux comtés. C'est terminé pour le comté de Milwaukee et Biden a creusé son avance de 132 votes.
Bon, alors oui, comme il a dit, il y a beaucoup de chemin à parcourir d'ici le 20 janvier prochain. J'aimerais qu'on parle quand même de ce message très optimiste, rassembleur, de Joe Biden. Il reste un fait, c'est que le coronavirus se transmet de façon remarquable aux États-Unis. Plus de 13 millions de cas. 1 million de cas en 5 jours, Valérie.
Oh, c'est incroyable ce qui se passe et on n'a même pas encore les cas qui vont être testés après Thanksgiving, donc après l'Action de grâce. On dit qu'il y a plus de 260 000 morts aux États-Unis. Déjà, on a vu le reconfinement à Los Angeles qui a été annoncé. Et il y a plus de 100 000 nouvelles infections pour 25 jours consécutifs. Ça fait 25 jours qu'on dépasse le cap du 100 000 nouvelles infections. Alors, ce qu'il a dit, Joe Biden, dans son discours, il a promis un retour à la normale. Il a dit on va gagner la guerre contre le virus. Il y a aussi, dans une annonce qui est enregistré avec sa femme Jill, il a parlé du fait que oui, c'était difficile à Thanksgiving cette année parce qu'on peut pas se réunir en grande famille et qu'il y avait aussi des gens qui manquaient à la table, des gens qui ont été tués par le virus. Il a dit et sa femme a dit on le sait ce que c'est de perdre un être proche et d'avoir ce vide, mais il faut être fort. Alors c'était vraiment en contraste quand même avec le message de la Maison-Blanche où on dit réunissez-vous et allez dans les lieux de culte. Donc on est vraiment quand même à l'opposé.
politique internationale, on l'a dit, c'est important. Toute cette incertitude qui est surtout alimentée par l'actuel président, ça peut compromettre la sécurité nationale. Et il y a eu un incident quand même très important qui est survenu en Iran hier. Le principal chercheur, on peut dire le père du programme nucléaire iranien, qui a été assassiné en Iran. Là, évidemment, du côté des autorités iraniennes, on semble pointer du doigt Israël, mais est-ce que ça pourrait encore aggraver les relations qui sont déjà très mauvaises en ce moment entre les États-Unis et l'Iran?
C'est ce qu'on croit, parce qu'on dit que les Américains étaient au courant de cette frappe-là, qu'on allait cibler, tu l'as bien dit, Paul, le père en quelque sorte du nucléaire, comme Netanyahou, le dirigeant d'Israël, l'a déjà déclaré. Alors, c'est vraiment, on le sait, pour miner les chances de développer une arme nucléaire pour l'Iran, mais eux voient ça vraiment comme une attaque en sol iranien. Alors, on dit qu'on va avoir des conséquences qui vont être là. Ça sera pas nécessairement tout de suite, mais quand on va frapper, ça sera le bon moment. C'est ce qu'ils ont dit. Et ça met de la pression quand même sur le gouvernement Biden. Pourquoi? Et c'est pour ça que j'en parle dans la chronique de politique américaine. C'est bien sûr les États-Unis qui sont alliés d'Israël. Et je vous rappelle que Donald Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire iranien quand même en début, relativement début de mandat. Alors là, Joe Biden a dit qu'il voulait rejoindre encore l'accord sur le nucléaire iranien si l'Iran promettait les mêmes choses qu'au départ. Mais là, écoutez, on va être dans un contexte de tension. Est-ce qu'il va avoir une répercussion où l'Iran va frapper Israël? Donc, imaginez, on le sait, hein, c'est une poudrière, le Moyen-Orient, cette zone-là. Alors, vraiment, ça risque d'être plus difficile de faire ces négociations entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, l'Iran qui demande qu'on cesse certaines sanctions qui avaient été imposées par le gouvernement Trump.
Merci beaucoup, Valérie Beaudoin.